Alors, il reste des places. Il y a 3 places ici. Il doit y avoir 3-4 places de l'autre côté. Et puis, si vous avez des places en vous serrant, levez la main et dites « je le jure ». Et comme ça, s'avanceront ceux qui n'ont pas de place pour que chacun puisse trouver une place. Et puis, on peut toujours s'asseoir sur les marches de l'escalier. Et donc, comme nous sommes très nombreux, chacun nous fera un effort pour le silence, pour que tout le monde puisse entendre les malentendants et les autres. Voilà, tous ceux qui voulaient s'asseoir se sont assis, et ceux qui se tiennent debout, prêts à partir, en chemin. Bon. Voilà, je suis sûr que vous avez tous fait au moins une fois dans votre vie, sinon vous le ferez lors des prochaines vacances, cette petite expérience, un petit cours d'eau, trois fois rien, mais enfin tout de même, on ne peut pas le traverser comme ça, sinon on va se mouiller les pattes. Et donc vous cherchez des rochers, ou vous cherchez des bûches pour le traverser en sautant. Et donc, ce qui compte, évidemment, c'est d'avoir des éléments stables pour ne pas se retrouver dans l'eau, les quatre fers en l'air, et d'avoir quelque chose qui nous permet de traverser. Et voyez, cette image d'une rivière à traverser en sautant de caillou en caillou, c'est un peu ce que nous sommes obligés de faire dans la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est un fleuve tumultueux, il faut trouver le gué pour franchir ce fleuve. Et la Bible aussi est un livre mystérieux, et pour comprendre ce livre, il nous faut trouver les bonnes pierres pour avancer, progresser et traverser la Bible pour arriver jusqu'au Christ. Et un moyen, que ce soit pour notre vie ou pour la Bible, pourrait être de reprendre les grandes questions que je me suis posées dans ma vie. Mais pas n'importe quelle question. Hein. Combien de pain je vais acheter? Non, ça, c'est pas, on peut laisser tomber. Ces grandes questions qui ont été des éléments moteurs de ma vie et de voir comment, de question en question, la recherche de Dieu, la recherche de qui je suis s'est approfondie. Et donc, si nous prenons, non pas votre vie, mais la Bible, quelle est la première question qui surgit dans l'Écriture? Vous vous souvenez? Vous l'entendez? C'est quelle question? Quelle est la première question? Est-ce qu'il y en a qui ont lu la Bible? C'est quoi? Qu'as-tu fait de ton frère Anon avant? Où es-tu? Alors il y a où es-tu, mais il y a même avant, mais celui-là on va l'oublier. C'est la première question, c'est le serpent qui pose la question. Est-ce que Dieu vous autorise à manger de tous les arbres du jardin? Mais comme c'est le serpent, c'est certainement pas stable et ça ne nous mènera pas dans la bonne direction. Donc déjà, on l'éjecte. Et donc, la question de Dieu, où es-tu? Qui nous montre que l'homme, voilà, s'est perdu et que Dieu le cherche et que Dieu lui indique qu'il est perdu. Et après, effectivement, il y a ces questions avec Cain et Abel. Qu'as-tu fait de ton frère? Et avant, as-tu raison d'être en colère? Où est Abel? Bon, et on pourrait continuer comme ça. Et donc, ici, dans l'Évangile, nous tombons sur la première question de l'Évangile de Matthieu. Vous l'avez entendu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà la question. Et finalement, c'est notre question à nous. Où donc se trouve Jésus dans ma vie? Est-ce que vous dites, ben c'est bon, j'ai trouvé, la preuve, c'est que je suis là. Non. Est-ce que nous continuons à chercher Jésus? Où est-il? Parce qu'on a pu l'avoir trouvé à un moment, je ne sais pas, à mes 18 ans lors des JMJ, puis j'ai oublié depuis le temps, et donc je l'ai perdu en chemin, il faut que je le retrouve. Et donc soit nous pouvons chercher le Seigneur tout seul, mais moi je dis que c'est dangereux. Nietzsche, je ne sais pas s'il a vraiment cherché Dieu, enfin je pense tout de même un petit peu, mais à sa façon à lui, un peu orgueilleuse, et cette recherche solitaire l'a mené à la folie. Hein. Les 10 dernières années de sa vie, de 1889 à 1900, à l'asile psychiatrique, dans un état semi-végétatif. Cette question est beaucoup trop vaste pour nous. Et donc, c'est non seulement la question de notre vie, mais c'est la question de l'humanité. Et donc, nous devons la porter ensemble. Et c'est ensemble que nous trouverons comment avancer et traverser ce fleuve impétueux. Et donc, je voudrais reprendre quelques petits éléments que nous donne Matthieu pour nous guider, pour sauter de pierre en pierre. Si on avance un peu dans l'Évangile, au chapitre 12 de Matthieu, nous avons des gens qui cherchent Jésus, ce sont les plus proches, c'est la famille. Vous vous souvenez ce passage ? Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Ils sont déboussolés, ils ne comprennent pas, mais que fait-il avec cette foule ? Mais que fait-il avec ces miracles ? Rentre à la maison, tu es le fils du charpentier. Et que dit Jésus ? Jésus répond, qui sont ma mère, qui sont mes frères ? Celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà, Jésus est là où est le Père. Hein, souvenez-vous d'ailleurs l'épisode qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps, dans le temple, lorsqu'il a 12 ans, il est aux affaires du Père. Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je sois aux affaires de mon Père ? Et donc, à chaque fois que je fais la volonté du Père, Jésus est là. Je sais que j'ai Jésus. Je sais que je suis arrivé à la crèche. Je sais que je peux me prosterner. Et vous allez me dire, mais comment je sais que je fais la volonté du Père ? Bon, je ne vais pas trop raffiner la question. À chaque fois que je me laisse aimer et que j'aime, je sais que je fais la volonté du Père avec certitude. Et donc, même si je ne vois pas très bien, même si j'ai du mal à discerner sur tel ou tel point, si j'essaye, avec mes forces humaines, avec la grâce de Dieu, d'aimer, de me laisser aimer, Jésus est là, et je peux l'adorer. Et puis si on continue au chapitre 14, le chapitre 14, vous savez, c'est cette étape importante pour Jésus. Jean-Baptiste a été arrêté, Jean-Baptiste est décapité. Jean-Baptiste qui est celui qui a désigné l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste qui est la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste n'est plus là. Il a tellement diminué pour laisser grandir le Christ que maintenant le Christ doit prendre sa pleine maturité. Et que fait le Christ ? Est-ce que vous vous souvenez ce que fait le Christ à ce moment-là ? Eh bien, il part. Il prend une barque, il va de l'autre côté, du côté de la Décapole, il va dans le désert, il va sans doute prier pour mieux recevoir cette volonté du Père, pour mieux comprendre ce qu'il doit faire maintenant que Jean-Baptiste est mort. Et que font les foules ? Évidemment, les foules sont toujours au courant. Hein. Il y a toujours des petits malins qui racontent ce qui se passe. Et on nous dit, je vous lis ce passage, « Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. » C'est quand même extraordinaire. Lui, il va en barque, donc c'est peut-être assez rapide, mais les foules font le tour. Je ne sais pas si c'est par le nord ou par le sud, mais c'est quand même beaucoup plus long. Et elles y vont à pied. Et elles quittent leur ville. Trouver Jésus, ce n'est jamais prendre l'avion ou le bateau ou le train, c'est toujours avec nos pieds. C'est toujours dans cette persévérance du quotidien, dans ce labeur du quotidien, que nous pouvons l'atteindre. Et nous ne pouvons l'atteindre, vous l'avez entendu, que si nous quittons nos villes, si nous quittons nos avoirs, nos pouvoirs, tout ce que nous sommes, si nous acceptons de nous dépouiller de notre or, lors de nos qualités, de nos vertus, si nous nous dépouillons de l'encens que nous offrons à toutes ces idoles qui nous dominent souvent, et la mire de la mort, la mire de nos souffrances, la mire de nos blessures, si nous remettons finalement tout ce que nous sommes. Tu es impropre au royaume des dieux si tu ne quittes pas ton père et ta mère. Laisse-moi enterrer ton père, non. Et donc, nous voilà appelés à entrer dans cette persévérance radicale d'accepter au moins, allez, je vais être gentil, au moins pendant notre temps de prière, de nous quitter nous-mêmes pour, pour nous mettre à la recherche de Jésus et pour le trouver. Et vous savez les résultats. Ils arrivent là, ils ont bien marché. Et que fait Jésus? On nous dit, il les vit. Il fut saisi de pitié. Il les enseigne, il les guérit. Il voit qu'ils ont faim, comme vous peut-être. Et alors, c'est la première multiplication des pains. Et je crois que si nous faisons ce travail, nous aussi, Dieu multipliera le pain. Troisième et dernier passage, et je m'arrêterai là, au chapitre 16, cette fois-ci, c'est les disciples. Et la question, elle est posée par Jésus lui-même. C'est la question qui fait le pli dans l'évangile de Matthieu, elle est au milieu de l'évangile. Le Fils de l'homme, qui est-il pour les foules et pour vous? Et voilà que Pierre répond au nom de l'Église, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et un peu plus loin, au chapitre 27, ce n'est plus le Juif qui parle, mais c'est le païen, c'est le centurion qui parle, quand il voit le Christ sur la croix, vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Et donc, voyons, on est passé de la question « Où est Jésus ?» Si on s'arrête simplement à la question « Où est Jésus ?» Mais où est-il dans ma vie? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Non, la question, elle doit aller plus profondément. Qui est Jésus pour moi? Il est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là. Et donc, qui est-il pour moi? Comment je le reçois? Il est mon Créateur, il est mon Sauveur, il est mon ami. Qui est-il pour moi? Et en reconnaissant qui il est, Pierre reçoit le pouvoir des clés. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà, quand cette fête de l'épiphanie, eh bien nous aussi nous avancions de pierre en pierre pour toujours plus découvrir qui est le Christ et découvrir qui nous sommes. Amen.